Entreprendre en tant que femme au Togo, je crois que c'est naturel, ça vient depuis le début, le bas âge, où les mamans nous apprennent à faire beaucoup de choses à la fois. Vous allez à l'école, vous rentrez, vous vous occupez de la maison, ou soit vous allez encore au champ ou au puits. Donc, c'est ancré en nous. Au Togo, chaque femme est une entrepreneur, que ce soit la couturière, que ce soit la dame qui fait de la bouillie au bord de la route ou que ce soit une chef d'entreprise. Nous nous levons chaque matin avec cette conviction de faire quelque chose de mieux, de ramener quelque chose à la maison chaque soir. Et donc, entreprendre au Togo, c'est vraiment cette détermination, ce courage-là de toutes ces jeunes femmes, ces femmes-là qui se battent chaque jour.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Reportage aujourd'hui au Togo, à la rencontre de femmes entrepreneuses de tous horizons. Elles ont entre 25 et 55 ans. Elles sont soit couturières, transformatrices de céréales ou de noix de palme, ou fondatrices de start-up. Et elles se battent pour leur indépendance financière, qu'elles soient analphabètes ou ultra connectées. Bonjour Raphaël Constant.
Bonjour Emmanuel.
La contribution des femmes à l'économie africaine n'est plus à démontrer. Au Togo, comme ailleurs, elles sont surtout dans l'économie informelle. Vous étiez en reportage au Togo.
Oui, au Togo, on a 3 millions de travailleurs informels sur 8 millions d'habitants et au moins 52% de ces activités sont menées par des femmes. Alors de plus en plus de micro et petites entreprises sont menées par des femmes qui sont confrontées toujours à des problèmes d'accès au financement ou encore un manque de confiance en elles et plus largement, Emmanuel, l'image des femmes dans la société.
Alors on commence avec un premier exemple, Raphaël.
Oui, Annika Ablavi est directrice de l'entreprise Filab Épice du Chef à Lomé. C'est une femme élégante qui m'accueille dans une jolie robe à fleurs devant sa boutique située à Adidogomé, le long des rails du chemin de fer qui va vers le Ghana.
Ok, soyez la bienvenue. Nous rentrons dans la boutique, là où les produits, après transformation, c'est ici que nous exposons les produits. Nous avons une gamme de 30 produits. L'idée de monter cette entreprise, disons que c'est presque imposé à moi parce que j'ai une passion pour la cuisine. Au début, c'était avec notre propre fonds. Nous avons commencé avec 20 000 francs.
Donc, vous avez démarré votre activité ?
Avec 30 euros.
Avec 30 euros, 20 000 francs. Dans quoi vous l'avez investi ?
Acheter ne serait-ce que les intrants, les matières premières. Et c'était pour un seul mélange que j'avais investi ces 20 000 francs. Aujourd'hui, nous avons près de 10 gammes de mélange d'épices.
Et à qui vous vendiez alors quand vous produisiez dans votre cuisine ? C'était aux voisines ou vous alliez sur les marchés ou c'était de la demande personnelle ?
C'était aux voisines, à des amis. Et c'est leur appréciation qui nous a donné le courage de le faire en grande quantité aujourd'hui. Et je me rappelle, midi même, je cogne la porte à des gens pour leur proposer les épices. Ça n'a pas été facile.
Vous avez fait du porte-à-porte ?
Ah, j'ai porté les sacs, je me promenais de bureau en bureau. Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, toutes ces gens-là, je ne vais plus vers eux. C'est eux qui viennent vers moi.
Et alors, racontez-moi comment vous avez fait pour vous agrandir.
L'aide n'était pas venue des microfinances ni des banques parce que peut-être que les microfinances, eux, ils demandent à ce que les familles nous cautionnent. Et les familles aussi, des fois, sont réticentes. Puisqu'elle ne croit pas ce que vous voulez faire, elle ne sait pas ce que la caution va causer demain. Si vous ne payez pas, elles seront responsables de ce que vous avez pris comme prêt. Donc, toutes les entrepreneurs femmes qui veulent aller loin, c'est cette garantie qui les bloque. Mais il y a des amis qui ont dit, des parents qui ont dit, « Ok, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux commencer avec combien ?» Je dis, « Non, il va falloir que je m'acquière de certaines machines d'abord. J'ai besoin d'un séchoir. » Après, on a besoin d'un moulin.
Donc, vous avez reposé que sur les financements des amis et de la famille depuis le début ?
Depuis le début jusqu'à ce moment.
Vous êtes chanceuse alors ?
Vraiment. Ça, je l'avoue.
Et au total, est-ce que vous savez combien de crédits vous avez demandé aux amis et à la famille pour pouvoir développer et agrandir votre activité ?
J'en ai tellement demandé que je ne me rappelle plus. Puis c'est aussitôt, on prend, on rabousse. Donc, on ne garde pas pour faire des comptes, après quoi.
Et vous avez une idée à peu près ?
Plus de 2 millions.
Donc à quelle échelle votre chiffre d'affaires a progressé, s'est développé entre le moment où vous étiez dans votre propre cuisine et aujourd'hui vous avez une unité de transformation derrière votre boutique?
On peut dire de 50%. Aujourd'hui, nous sommes une coopérative des femmes, de mes sœurs, nous sommes 5 femmes. C'est une coopérative simplifiée. Et on a 4 employés et des fois même, quand la position est considérable, on sollicite des gens qui viennent travailler juste pour la journée. On a aussi changé la vie de ces employés-là et de leurs parents. Et les cultivateurs qui nous fournissent aussi les intrants, les producteurs des boîtes que nous utilisons. Notre activité a impacté la vie de toutes ces personnes-là.
Qu'est-ce que vous faisiez avant de vous lancer dans la production et la vente d'épices?
J'étais une employée de bureau. Donc j'ai demandé une retraite anticipée pour pouvoir me lancer dans cette activité.
Donc vous avez quitté un poste stable et sûr pour monter votre propre micro-entreprise?
Exactement. Je voulais entreprendre moi-même. Je voulais être ma propre directrice de société. C'était risqué. C'est un pari gagné. C'est à nous-mêmes de montrer ce dont nous sommes capables. Et je sais aussi que quand vous arrivez à épater la famille ou bien les amis avec ce que vous faites, et comme ça, vous allez vous imposer après.
Votre famille, elle est fière de vous aujourd'hui?
Tout à fait. Elle est tellement fière de moi. Et ça refait ma propre fierté.
Bonjour, moi c'est Marcelin Gandonou, coach, auteur et formateur sur les questions de management, de leadership et de développement personnel. L'entrepreneuriat féminin à micro-échelle, il faut déjà noter que les femmes sont mises à l'écart du système financier classique. Donc la grosse problématique, c'est comment est-ce qu'elles peuvent financer leur activité en sachant qu'à la base, c'est elles qui s'occupent également de la famille, de l'école des enfants et parfois même du mari. Donc les femmes entrepreneurs, en tout cas du secteur informel, continuent de s'appuyer en plus grande partie sur les cotisations entre elles. Dans les quartiers, entre femmes, dans le village, à la fin du mois, une personne ramasse tout le lot et lance son activité. À la fin du mois prochain, la deuxième personne ramasse, ainsi de suite. Et ça permet de donner un fonds de roulement à chacune d'entre elles. Maintenant, en dehors de ça, il y a naturellement le système de la microfinance et de la mésofinance qui prend de l'ampleur parce que on s'est rendu compte que si on arrive à accompagner cette frange de la population, c'est vraiment un travail assez important qui sera fait au niveau du développement de nos pays africains. Il ne faut pas aussi occulter le fait qu'on est dans un contexte socio-culturel où beaucoup de gens préféraient que les femmes restent à la maison. Donc il y a les pesanteurs sociaux, il y a le monsieur aussi qui a encore son mot à dire. Parfois, vous allez voir dans des familles, on laisse la femme entreprendre, mais à toute petite échelle, voilà, pour qu'elle continue de s'occuper de la maison. Et quand ça commence pas à prendre de l'ampleur, on dit non, attendez, madame, vous commencez pas à négliger la maison. Donc il y a tous ces pesanteurs-là qui font que c'est un peu plus lourd et difficile pour les femmes d'entreprendre. Maintenant, il faut qu'au niveau de la société, les hommes aussi comprennent qu'une femme qui travaille n'est pas forcément une menace pour le couple ou bien pour le bien-être des enfants, etc.
Et alors justement, en quoi la non-inclusion financière des femmes les empêche d'entreprendre aujourd'hui?
Oui, vous savez, déjà, je ne vous apprends rien. Le système financier classique, surtout de ce côté-ci de la mer, n'aime pas prendre de risques. Et comme vous le savez, on dit souvent qu'on prête aux riches. Et quand on part de ce postulat, les femmes déjà ne sont pas riches, donc on parle de tout petits montants dont elles ont besoin pour lancer leur commerce de charbon, de bois, de piment, de vente de tomates, de légumes, d'ouvrir une petite boutique, etc. Donc c'est de très très petits montants qui peuvent n'avoir l'air de rien, mais ça peut vraiment être une bouffée d'oxygène.
Même une base de 10, 20 euros, 30 euros?
Bien sûr, parce que certes, on est à Lomé ici, mais il y a des femmes qui vont à 20, 30, 50 kilomètres de Lomé pour aller s'approvisionner dans les villages, dans les marchés, dans l'entour, et revenir vendre à Lomé. Donc, avec 30 000, 50 000 francs CFA, elle peut rapidement faire ça. C'est vraiment de la débrouillardise, d'innovation, de créativité dont elles font montre pour pouvoir s'en sortir. Vous voyez? Donc, c'est vraiment une économie de jour en jour. Et donc, pour qu'elles puissent sortir de cette précarité-là, il faut forcément qu'elle ait du financement, en prenant également en compte la crise sanitaire qui a vraiment bousculé la donne. Elles ont quand même vraiment besoin d'être accompagnées. C'est également le rôle de ceux qui gèrent la cité de vraiment prendre ça à bras le corps, parce que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de compétences, beaucoup de talents, beaucoup de génie que nous risquons de perdre si on n'accompagne pas ces femmes-là. Parce que si des gens avaient très très peu de moyens ou pratiquement pas de moyens, arrivent quand même à s'en sortir, à envoyer les enfants à l'école, etc. Vous imaginez si on arrive à les accompagner, ce que ça peut donner, en sachant que, selon les statistiques, la population féminine dépasse la population masculine. Donc si on ne les accompagne pas, en réalité, les pays se privent eux-mêmes de beaucoup d'énergie, de beaucoup de force, de talent, de compétences.
Avec la pandémie de Covid-19, la Banque mondiale a accordé un financement de 70 millions de dollars au Togo pour redresser son économie. Et les femmes sont les premières victimes de la crise économique, Raphaël Constant.
Oui, et plusieurs dispositifs ont été mis en place pour soutenir les femmes. Il y a d'abord le programme des Nations Unies pour le développement qui a lancé en novembre 2020 un projet d'appui à une cinquantaine de micro, petites et moyennes entreprises togolaises. Par ailleurs, l'État, avec les bailleurs de fonds comme l'Agence française de développement, a lancé le programme Novici. C'est en fait un revenu universel de solidarité versé pendant les 3 mois de l'état d'urgence sanitaire en 2020 pour finalement accompagner les entreprises et les plus démunis. Ce dispositif totalement novateur, Emmanuel, aurait servi à 570 000 Togolais, des personnes qui vivent de gains journaliers sans sécurité sociale et donc affectées par une baisse d'activité. Mais je souligne que les femmes que j'ai rencontrées n'ont, elles, pas eu la chance de bénéficier de ces aides.
Raphaël Constant, les institutions de microfinance sont très présentes depuis plus de 20 ans en Afrique. Qu'en est-il au Togo ?
Alors la microfinance est complètement démocratisée, effectivement. Au Togo, on compte aujourd'hui plus de 90 institutions différentes et près de 500 points de service. La FUSEC, la COPEC ou Wages sont les plus importantes. Mais Emmanuel, il faut dire que ces institutions pratiquent des taux d'emprunt très élevés, jusqu'à 25% quand même. Et donc de nombreuses femmes ont vu leur activité couler à cause du calendrier de remboursement et de leur surendettement.
Pour les plus pauvres, notamment les femmes, l'accès au crédit, à un capital de départ pour entreprendre, ça reste difficile, on l'a compris. En milieu rural, j'imagine que c'est encore plus difficile.
Oui, en milieu rural, il y a seulement quelques agences de microfinance qui accompagnent les femmes, car en fait, ces institutions préfèrent s'installer dans les milieux où elles peuvent être rentables, donc en ville. Alors, pour mieux comprendre les alternatives qui existent pour accompagner les femmes les plus pauvres dans le développement de leur activité économique, j'ai suivi un programme de terrain en zone rurale, Asila Simé. C'est un programme de microfinance sociale promu par l'ONG Entrepreneurs du Monde depuis 2012. Et l'idée, c'est de toucher les personnes exclues du système financier classique et surtout de leur accorder un crédit sans caution, sans garantie matérielle ou financière. Alors aujourd'hui, Asila Simé compte plus de 60 000 bénéficiaires sur les 9 agences du pays et pratiquement que des femmes. J'ai donc passé 2 jours dans la région d'Amlamé, à plus de 300 km de Lomé, accompagné de Jacques Apétor, directeur exécutif d'Asila Simé.
Ok, nous sommes dans un village qui n'est pas trop loin de Amlamé, qui s'appelle Patatuku, d'environ 500 à 700 habitants.
On est au pied des montagnes, c'est très vert, et là on arrive devant une maison qui est entourée par un mur de pierre, et il y a des palmiers semés un peu partout.
Comme dans la méthodologie d'Asila Simé, les réunions se déroulent sur le terrain, et généralement dans la maison d'un bénéficiaire ou bien d'un représentant du groupe.
On y va ? On rentre ?
Ok, allons-y.
Jacques, pour bien comprendre d'abord le panorama du micro-entrepreneuriat au Togo, quelle est la différence entre entreprendre une micro-entreprise en milieu urbain et en milieu rural ?
En milieu rural, les activités se limitent seulement aux activités agricoles et également à l'élevage. En milieu rural, généralement, nous savons que la femme se charge de faire le commerce. Donc, c'est la femme qui fait la vente des produits récoltés au champ du mari.
Et quels sont les besoins alors qu'elles ont pour entreprendre ?
Si dans la famille, il n'y a pas quelqu'un qui pourra facilement aider financièrement une femme à entreprendre, la femme se trouve dans l'obligation de tourner vers une institution financière pour solliciter un crédit. Mais généralement, le problème qui se pose, c'est que quand la femme n'a pas suffisamment de moyens pour fournir des garanties et solliciter un crédit...
Comme quoi, par exemple ?
Des papiers de terrain. Ou bien la personne a un moyen de déplacement, genre une moto, genre une voiture.
Les femmes sont rarement propriétaires de la terre. Souvent, c'est le mari. Oui. Donc, c'est encore plus compliqué de fournir des garanties.
La femme est obligée d'aller voir le mari pour que le mari lui prête le titre foncier. Si le mari en dispose, donc, du coup, c'est compliqué. Et une femme qui a envie d'entreprendre sera limitée et finalement va baisser les bras. Elle va se dire, ok, je vais plutôt continuer par faire ma très petite activité de subsistance qui leur permet de se nourrir, de se vêtir et puis peut-être de payer les soins médicaux dans des petits centres de santé.
Alors expliquez-nous, Jacques, le programme Assilassimé, c'est quoi ? En quoi ça consiste et comment ça fonctionne ?
Nous avons différents types de produits de crédit. Le crédit coup de pouce, donc c'est un crédit inférieur à ou égal à 20 000 francs CFA, je crois l'équivalent de 30 euros, qui est offert aux bénéficiaires qui n'ont pas les moyens, qui veulent démarrer une petite activité. Le taux d'intérêt est nul, c'est zéro. Les frais de gestion sont nuls également. Et maintenant, si l'activité existe déjà et que la personne veut tout simplement la développer, il y a d'autres types de produits dont nous disposons, notamment le crédit à Menovi. Et c'est un crédit dont le taux d'intérêt est égal à 1,5% dégressif le mois et le paiement des frais de gestion correspondant à 1,45% du montant du crédit accordé. Si jamais un risque survenait, c'est Assilassimé qui s'en charge de ces risques-là, tout en demandant juste une contribution de 200 francs CFA aux bénéficiaires qui veulent prendre du crédit supérieur à 20 000 francs CFA. Comme ça, au cas où un cas de décès arrive, nous allons puiser dans cette caisse de solidarité pour combler le trou qui est créé.
Et est-ce que ça marche pour les femmes qui créent leur micro-entreprise ?
Je dirais qu'aujourd'hui, ça marche. Parce que le crédit n'est pas tout simplement remis aux bénéficiaires et on va attendre le remboursement. Mais il y a un accompagnement qui est donné pour permettre à la personne de réussir son activité. Il y a deux personnes qui font le suivi. Il y a l'animateur et maintenant il y a le conseiller agricole qui accompagne, qui voit avec la bénéficiaire pour voir si est-ce que le vétérinaire vient régulièrement pour vacciner les animaux. Est-ce que les techniques culturales sont bien respectées pour permettre à ce que le rendement soit au rendez-vous. Déjà avec ces accompagnements, l'activité va marcher et la personne pourra facilement rembourser son crédit et dégager une marge pour la réalisation de ses projets.
Alors, il y a déjà une trentaine de personnes réunies pour suivre la formation. C'est quoi aujourd'hui au programme ?
Et la formation d'aujourd'hui, qui est animée par notre collègue Salifou, tourne autour du thème « Démarrer son activité génératrice de revenus ».
On avance ?
Oui.
Et votre journée, j'espère que vous allez tous bien. Avant de se lancer dans le commerce, il ne faut pas simplement se dire qu'on est dans le besoin. Il faut se demander si on peut réellement mener à bien cette activité et surtout avoir conscience que cela nécessite un fond de base, un attrait pour l'activité choisie et puis avoir confiance pour réussir. Je vais vous montrer un exemple concret, l'histoire de maman Margot à travers ses photos pédagogiques.
Qu'est-ce que vous montrez ?
Nous sommes en train de présenter l'histoire de madame Margot qui veut démarrer une activité génératrice de revenus.
Et vous montrez ça avec des supports images ?
Voilà, pour mieux expliquer et mieux comprendre son historique. Maman Margot, les bières qui se viennent aller.
Maman Margot pense qu'elle pourrait vendre des pagnes ou ouvrir un restaurant et vendre la pâte de farine de maïs. Que faire donc? Après réflexion, elle se souvient que plus jeune, elle aidait son oncle au marché et elle avait un bon contact avec la clientèle. De là, Margot décide alors de faire du commerce. Mais d'abord, elle se demande, qu'est-ce que je pourrais vendre pour avoir de la clientèle? Après s'être rendue au marché pour observer les différents étals, elle se rend compte qu'il n'y a aucun vendeur de poissons dans le marché. Et là, maman Margot a l'idée de vendre du poisson fumé, sachant que la population en a besoin pour faire les sauces. Que doit savoir maman Margot?
Il faut que maman Margot fasse le calcul du prix de vente avant d'entreprendre cette activité pour être sûre d'avoir un bénéfice.
Maman Margot se rapproche des vendeurs de poissons frais pour savoir quels types de poissons sont disponibles et à quel prix. Dès son retour à la maison, qu'est-ce qui se passe?
Maman Margot doit faire ses calculs pour avoir une idée du fonds de démarrage dont elle a besoin.
Maman Margot, après calcul, comprend qu'elle a besoin d'un fonds de démarrage de 100 000 francs. Mais elle n'a que 30 000 francs en poche et cette somme est insuffisante. Comme maman Margot appartient à un groupe de microfinance sociale, elle va voir l'animateur pour demander un microcrédit tout en tenant compte du prix d'achat des poissons frais, des bénéfices qu'elle peut tirer et de sa capacité de remboursement. Que voyons-nous ensuite sur les images?
L'activité de maman Margot se déroule à merveille et elle peut même se payer une moto pour vendre du poisson porte à porte.
Maman Margot a eu l'idée de vendre ses poissons au kilo et de les livrer directement sur le lieu d'activité de ses clients, d'où l'achat d'une moto et d'une caisse réfrigérante pour transporter les poissons fumés. Et ensuite, Konou.
Maman Margot est toute joyeuse en présence des autres personnes.
Maman Kelou, dites-nous ce que vous avez retenu au cours de cette formation.
Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut choisir son activité après réflexion, c'est-à-dire recenser les besoins sur les marchés et les besoins de la population, et aussi se demander s'il y a une différence entre ce que je propose et ce que les autres font déjà. Enfin, si on a un fonds propre ou de l'épargne dans un groupe de microfinance, on peut demander un crédit pour lancer son activité, une fois qu'on a bien défini le crédit dont on a besoin pour limiter le surendettement.
Pourquoi vous tapez dans les mains?
C'est pour l'encourager parce qu'elle a bien répondu. Voilà.
Merci maman, merci à vous tous. La prochaine séance portera sur l'agriculture. Choisir les cultures adaptées à nos sols, assurer la qualité de nos sols pour un bon rendement. Allez, on termine par un chant d'encouragement.
On vient d'arriver dans une cour en sable, il y a 2-3 maisons sur le même terrain. Je vois plein de grandes bassines par terre, une qui est en train de chauffer sur le feu, et un abri avec plusieurs noix de palme par terre. Et Madame Afoua, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en plein dans le processus de transformation des noix de palme en huile de palme. Après le décortiquage des noix, je les mets dans ces bassines, j'ajoute de l'eau et je malaxe. Je retire les amandes, ce sont des déchets qui servent à allumer le feu. Et ensuite, vous voyez une couche d'huile rouge apparaît en surface en quelques minutes. Je la récupère et je la mets à chauffer pour obtenir l'huile de palme. On peut aller s'installer là-bas. Je m'assois là. Afoua, comment vous avez procédé pour démarrer cette activité?
J'ai commencé il y a quelques années déjà avec l'aide d'une petite association de crédit et d'épargne de femmes villageoises. Une cotisation à la tontine de 500 francs par semaine a été mise en place. Plus tard, on s'est aperçu que le président du bureau, qui devait garder l'argent en lieu sûr, a dépensé une partie de la tontine sans nous le dire. On s'est quand même débrouillé pour récupérer le reste de l'argent et acheter des bassines et des noix de palme pour commencer le métier. Et puis, il y a quelque temps, j'ai entendu dire qu'Assila Simé avait aidé des personnes ici à commencer une activité grâce aux formations et aux crédits à 0 franc, même si on n'a pas d'épargne. Du coup, j'ai intégré un des groupes de mon quartier.
Et vous avez commencé par emprunter un crédit de combien ? Combien de francs ?
Mon premier crédit était de 35 000 francs CFA.
Ça fait à peu près 53 euros.
Avec cette somme, j'achète les noix de palme pour préparer l'huile. Je vais la vendre au marché et ainsi de suite toutes les semaines. Et petit à petit, j'ai commencé à épargner un peu. Au bout de 3 mois, j'ai commencé à faire des bénéfices et j'ai pu épargner 10 000 francs CFA après avoir payé les noix, mes dépenses personnelles, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, mais aussi les frais de scolarité pour les enfants et leur fourniture. Tout ça en remboursant mon emprunt. Et ça, je n'arrivais pas à le faire avant. J'ai demandé un second crédit de 50 000 francs CFA pour augmenter ma production. J'ai pu étaler le remboursement sur 6 mois en payant 2 fois par mois toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, j'en suis à mon 5e crédit.
Combien vous avez dû rembourser à Assila Simé avec les taux d'emprunt ?
Sur les 100 000 francs CFA empruntés, j'ai dû rembourser 104 000 francs. Donc ça fait 4 000 francs CFA d'intérêt.
Et alors racontez-moi, qu'est-ce que vous avez appris avec ce programme de microfinance ? C'est-à-dire que vous avez appris à développer votre activité, à faire de l'épargne. Qu'est-ce que vous avez développé dans votre petite entreprise ?
Avant de connaître le programme Assila Simé, je transformais le produit et je le vendais tout de suite. Je ne gagnais pas grand-chose. Il faut savoir qu'entre les mois d'août et de février, l'huile de palme se fait plus rare car on trouve moins de noix. Elles sont plus chères. Alors maintenant, en plus de ma préparation, je m'approvisionne chez d'autres transformatrices avant cette période. Je fais des stocks et je revends l'huile à ce moment-là, ce qui me permet de vendre toute l'année et de faire des bénéfices. J'ai donc appris à stocker le produit fini, à vendre au moment où le prix est le plus élevé et à ne pas se précipiter pour gagner un peu plus qu'avant. J'ai aussi appris à épargner le peu que j'avais, à éviter le surendettement et à gérer mes petits bénéfices pour subvenir à mes besoins.
Et depuis que vous faites partie de ce programme de microfinance, vous estimez à combien vos bénéfices par rapport à ce que vous gagnez avant ?
C'est difficile d'épargner à cause des charges familiales. Globalement, avec la vente des amandes triturées et séchées, de l'huile de palme et des coques, je gagne 15 000 francs CFA par semaine. Étant la 3e femme, je n'ai pas d'appui venant de mon mari, d'autant plus qu'il a rejoint son village d'origine, me laissant seule m'occuper des enfants. Donc, faute de moyens, je n'ai pas pu scolariser mes enfants longtemps. J'ai été obligée de leur trouver des travaux domestiques pour m'aider à réduire les charges. Mais aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir grâce au développement de mon activité. Merci à Assila Simé de m'avoir rendu le sourire.
Vous écoutez RFI 7 milliards de voisins, reportage au Togo de Raphaël Constant auprès de femmes micro-entrepreneuses à Lomé et en zone rurale. On entend, Raphaël, des parcours de femmes très différentes, mais avec un but commun, gagner sa vie pour assurer les dépenses du quotidien et faire vivre sa famille.
Oui, Emmanuel, et justement, l'un des principaux défis, c'est bien de s'émanciper de cette économie au jour le jour. On retrouve Marcelin Gandonou, coach en leadership.
Je pense qu'un des gros challenges auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est de pouvoir amener les femmes à sortir de l'entrepreneuriat de subsistance pour pouvoir plutôt aller à l'entrepreneuriat qui permet de créer de la valeur, qui permet de créer de la richesse. Parce que le but du jeu n'est pas seulement de faire un truc et d'envoyer les enfants à l'école, de payer la scolarité, les médicaments, non. Mais de créer vraiment de la valeur, de la richesse et d'avoir une entreprise même dans laquelle les enfants peuvent prendre en charge, peuvent développer après quand ils ont leur diplôme, etc.
Vous voulez dire finalement penser au long terme en fait, penser au développement pour sortir de la pauvreté ?
Absolument. Et il se trouve que beaucoup de nos mamans ne sont pas encore dans cet état d'esprit. Il y a certaines femmes qui font le même commerce depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans.
Pour la même rentrée d'argent.
Pour la même rentrée d'argent, ça n'a pas de sens. Donc comment est-ce qu'on fait le travail de reprogrammation pour qu'on quitte cette manière de faire-là, pour aller à de la création de la richesse, à des choses d'envergure qu'on peut exporter, etc. Donc vraiment, le travail, c'est au niveau du mental.
Alors vous, en tant que coach, qu'est-ce que vous conseillez à une femme qui veut monter sa micro-entreprise et qui veut la développer, qui tend justement à la développer? Comment on fait pour prendre ce tremplin?
Oui, déjà, commencer avec ce qu'elles ont, parce que quand on parle aussi un peu trop de financement, les gens peuvent avoir tendance à être tétanisés, ne pas démarrer parce qu'elles vont estimer qu'elles n'ont pas encore le financement nécessaire. Il faut démarrer, pas parce qu'on voit que ça marche à gauche, à droite, mais parce qu'on veut le faire, on aime le faire également. Il faut qu'elles se retrouvent également dans ce qu'elles font. Avec, par exemple, les coopératives. Si elles sont dans une coopérative et qu'elles se mettent ensemble, ça peut être une force à elles. Parce qu'individuellement, ça peut être très lourd à porter. Pour faire simple, premier niveau, elles démarrent avec ce qu'elles ont. Deuxième niveau, elles se mettent ensemble en coopérative ou en association. Et ce qui va être intéressant, c'est que si elles vont vers une institution de microfinance avec l'association, avec la coopérative, c'est plus pertinent, à mon sens, pour une maman d'arriver à mobiliser à elle seule 200 000, 500 000, 1 million de francs CFA, c'est compliqué. Mais si elles sont 10, 20, 30, ça va être un peu plus facile. Donc, comme on le dit un proverbe africain, une seule main ne peut pas applaudir. Aujourd'hui, tout le monde parle d'entrepreneuriat. La manière dont c'est enseigné dans les universités, laissons ça de côté. Parce que ce que nous vivons sur le terrain, c'est un peu plus compliqué que ça. Le premier niveau, c'est le besoin. Okay? Et on est dans un environnement où tout est à refaire. Vous savez, quand je vois par exemple la crise sanitaire, vous avez vu comment les gens étaient très créatifs. À un moment donné, les gens ne pouvaient plus se déplacer, mais la bonne dame vend de la tomate, vend des légumes, vend des fruits, etc. Comment est-ce qu'elle fait? Elles ont commencé par livrer aussi aux gens, puisqu'on ne peut plus se déplacer pour venir au marché, pour aller, etc. Vous voyez un peu, donc si on arrive à accompagner ces bonnes dames-là, dans ce qu'elles font déjà, il y a du potentiel vraiment à revendre.
Est-ce qu'il faut forcément être éduqué? Est-ce que ça peut être un frein pour les femmes qui se disent « je ne suis pas allée à l'école, donc je ne suis pas capable » ?
Ça ne devrait pas être un frein, c'est le système qui nous fait croire ça. Une grande partie des entrepreneurs suisses ne sont pas ceux qui détiennent les MBA, les doctorats, non, aucunement. Si des gens doivent donner des leçons en entrepreneuriat, ce sont nos mamans. Et je ne pense pas aussi qu'on puisse leur donner des leçons en matière d'épargne. Mais non, on peut améliorer ça. On peut ajouter des outils modernes pour pouvoir avoir plus de résultats. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Et même quand on parle de financement, ce sont des outils modernes pour pouvoir produire plus, vendre plus, avoir accès à des marchés, pouvoir exporter, etc. Et aller à l'école n'a absolument rien à voir avec ça. Si on prend même le cas des Nana Benz, on est au Togo, elles ne sont pas allées à l'école.
Les vendeuses de tissus qui ont fait fortune en exportant les pagnes.
Les pagnes, quand elles appellent les Nana Benz, parce qu'à un moment donné, tout s'est roulé à Mercedes-Benz. Elles ne sont pas allées à l'école, mais elles étaient des millionnaires dans les années 60, 70, 80, jusqu'à 90. Et aujourd'hui, ce sont leurs filles, leurs petites-filles qui ont pris le relais. La chose la plus simple à dire, c'est qu'elles puissent croire en elles-mêmes. Donc, le fait de se mettre ensemble, je pense que c'est vraiment une des solutions à terme pour pouvoir réussir l'entrepreneuriat féminin en Afrique.
Le Togo a mis en place différents programmes d'inclusion financière et d'accompagnement des jeunes entreprises, Raphaël Constant.
Oui, on peut d'abord citer le Fonds national de la finance inclusive, créé en 2014, qui permet aux plus pauvres, notamment les femmes, de bénéficier de microcrédits. Et puis, il y a également le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes et des femmes, qui prête jusqu'à 5 millions de francs CFA, avec un taux préférentiel de 4% pour les entreprises qui ont dépassé les 3 années d'existence. Également, le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural qui cible les micros et les petites entreprises agricoles portées par des femmes.
Et du côté des banques, on le sait, les femmes ont très peu accès aux services financiers.
Oui, aujourd'hui, les banques sont plutôt des banques d'épargne que de financement. Et il faut savoir qu'au Togo, le taux de bancarisation tourne autour de 25%, Emmanuel. Alors, un projet à destination des femmes a retenu mon attention car c'est un des premiers dans le genre. Depuis le premier trimestre 2020, Aura Bank a passé un partenariat avec l'État togolais pour proposer un nouveau programme financier, NCODD, qui signifie « aller de l'avant ». Il s'agit d'un prêt accompagné d'une formation pour apprendre à, par exemple, constituer son dossier ou à gérer un tableau d'amortissement. Et une soixantaine de femmes ont déjà bénéficié aujourd'hui de ce crédit, peu en ville, surtout dans la région de la Cara et des Plateaux. Explication avec Rachel Iwasa, directrice de la clientèle institutionnelle à Aura Bank, la première banque du Togo.
Spécifiquement, nous avons un programme qui nous permet de faire actuellement crédit à des femmes qui avaient bénéficié à la base de crédits de 30 000 francs de la part de microfinances ou d'associations, de regroupements. Après 150 000 francs, 200 euros pour commencer. Elles ont été sélectionnées parce qu'elles ont été exemplaires dans le remboursement, dans le potentiel de leur business. On a vu que ça englobait toute une collectivité autour d'elles progressivement. Et elles sont passées à 500 000 francs. Et aujourd'hui, on leur prête 5 millions, 1 500 euros.
Qui n'est pas un petit crédit, parce que généralement, les femmes qui montent une micro-entreprise ont besoin, en tout cas pour en fonds de départ, de moins que ça.
C'est pas un petit crédit, mais au niveau d'une banque, a priori, c'est encore du petit business. On a décidé, vu l'opportunité que ça représentait, de dédier spécialement un département à ce type de client, pour ne pas qu'elle soit lésée dans la prise en charge.
Donc pour ce microcrédit que vous accordez aux femmes qui veulent initier une petite entreprise, quels sont les taux d'intérêt, les conditions, les garanties, mais aussi les échéances de remboursement? Expliquez-nous.
Les échéances de remboursement sont étudiées en fonction de l'activité. Si la personne doit aller planter quelque chose et récolter, on ne peut pas commencer à lui déduire les remboursements alors qu'elle n'a pas encore joui des fruits de son investissement. Donc c'est au cas par cas. Le taux est limité à 7%, avec un coût forfaitaire comme frais de dossier de 5 000 francs, dont on pouvait vraiment se passer. Mais c'est parce qu'on pense que ça participe à l'éducation financière. Des conditions trop favorables n'habituent pas les femmes, les opérateurs économiques, quelles sont aux vraies conditions des banques.
Jusque-là, les femmes sont quand même moins privilégiées pour l'accès au crédit. Pourquoi ? Pourquoi on se méfie plus des femmes ? Pourquoi les banques ne prêtent pas de petites sommes?
On met autant de temps à faire une étude de dossier pour un prêt d'1 500 000 qu'un prêt de 500 millions. Donc c'est pas rentable pour nous, on n'a pas la logistique qu'il faut. Voilà, on fait vite de gros volumes et on gagne plus. Maintenant, pourquoi on a l'air de faire moins confiance aux femmes globalement en matière de crédit? Vous savez, il y a une censure sociale comme ça, l'auto-censure des femmes elles-mêmes qui veulent rien faire sans avoir l'accord d'un compagnon ou qui se sentent pas à la hauteur. C'est la population elle-même qui, des fois, est un peu craintive.
Craintive parce que la banque n'est pas encore une solution pour les femmes qui veulent entreprendre une petite activité.
Oui, mais en fait, c'est la mauvaise connaissance de la banque, il me semble. Parce que là où elles n'utilisent pas la banque, elles vont voir les usuriers, ce qui est encore plus mortel. Les banques devraient peut-être faire davantage pour aller vers ces populations-là, loin dans la campagne, sortir de nos bureaux. A priori, une banque n'est quand même pas vraiment structurée pour ce genre de cible.
Pour vous, comment la banque pourrait se réinventer pour aller toucher justement plus de femmes qui veulent entreprendre de petites activités et qui finalement portent ce secteur économique?
Je ne voudrais pas rêver, quoi. J'ai les pieds sur terre, je travaille dans une grande banque. Ce qui nous est très profitable, c'est les partenariats avec l'État. Dans nos pays africains, il y a peu de domaines où on peut évoluer de façon structurée si on n'est pas en partenariat avec l'État qui a des moyens pour quadriller le territoire. Mais moi, je pense que l'État a une vraie conscience. Pour développer une classe moyenne, il faut passer par là. Sinon, on fait un développement de surface et qui n'est pas du tout pérenne. Quand même, ce sont les institutions de l'État qui vont dans les collectivités les chercher. Ils ont des antennes régionales, sous-régionales, et nous les enrôlons comme ça. C'est ce qui encourage la banque, parce que, vous savez, s'il n'y avait pas un signal fort de ce côté, notre banque, ce n'est pas une œuvre humanitaire, quoi. On n'y irait pas.
Je suis Candide Leguédé, la fondatrice et la coordinatrice de InnoVap, qui est un centre entrepreneurial pour les femmes d'affaires du Togo, qui abrite en son sein un incubateur d'entreprises spécifiquement féminines. Nous accompagnons les startups qui ont moins de 5 ans. C'est la phase critique. La plupart meurent avant 5 ans. Donc c'est dans cette phase-là que ces entreprises ont besoin d'accompagnement dans le système de comptabilité, le système de gestion, dans le management en général, la tenue de caisse, par exemple, et les entrées, les sorties. Donc, c'est des choses qu'on leur apprend. Par exemple, les aider à créer leur site web, à faire le e-commerce, puisque aujourd'hui, aucune entreprise ne peut évoluer efficacement sans cela. Donc, nous faisons un peu la digitalisation de ces entreprises-là. La fiscalité, parce que ça aussi, c'est un autre problème. Si les femmes sont généralement dans l'informel, c'est parce qu'elles ne connaissent pas vraiment la fiscalité de notre pays et elles ont peur des impôts. Or, nous voulons qu'à la sortie de l'incubateur, que l'entreprise puisse être consolidée de façon formalisée de son entreprise.
Et justement, en quoi c'est important de faciliter la transition des femmes vers le secteur semi-formel ou formel? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'économie informelle, ce n'est pas de levée de fiscalité pour un État en dehors de la TVA sur les produits. Et il faut dire aussi, la grande majorité des femmes travaillent dans l'économie informelle.
Oui, nous savons tous que l'économie informelle dans nos États, c'est l'économie qui supporte en fait l'économie en général. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans l'informel et que le fisc n'arrive pas à engranger pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. Mais ce qui est important de savoir, c'est que quand vous êtes dans l'informel, vous êtes invisible. Si nous facilitons la transition vers le secteur formel, nous aidons également l'État à élargir l'assiette fiscale. Mais notre premier objectif, c'est la visibilité des entreprises féminines.
Mais qu'est-ce que ça changerait d'être plus visible?
C'est de pouvoir participer aussi aux prises de décisions. C'est quand vous êtes dans l'invisibilité, qui viendra demander votre avis? Or, nous voulons que notre pays puisse être dirigé de façon égalitaire, que les femmes qui participent à l'économie du pays puissent avoir leur mot à dire aussi. Il y a des avantages à être formalisés. Surtout que l'État a octroyé 25% des marchés publics aux jeunes et aux femmes. Pour accéder à ce marché public, il faut être formalisé. Il faut être une entreprise qui est au réel avec TVA. Et on leur dit surtout en matière de crédit. Si vous voulez obtenir du crédit, vous devez être formalisé. On doit vous retrouver quelque part. Parce que s'il y a problème, on ne sait pas où vous retrouver. C'est le nerf de la guerre. Le crédit, c'est le nerf de la guerre.
Aujourd'hui, quel regard vous posez sur l'entrepreneuriat féminin? Quels espoirs?
Moi, j'ai un très grand espoir parce que les femmes, aujourd'hui, se battent. Et elles arrivent aussi, aujourd'hui, à se hisser au même rang que les hommes. Et il est même reconnu que la femme entrepreneur chef gère même mieux que les hommes. Je suis sûre que d'ici 10 ans, même 10 ans, c'est trop, la donne va changer. Comme on dit en anglais, upside down, c'est les femmes qui vont être en avant et les hommes après. J'y crois fermement.
Raphaël Constant, le nerf de la guerre dans votre reportage au Togo, c'est le crédit. Alors un exemple de femme start-upeuse qui vous a marqué.
Elle s'appelle Jaël Amouzou, elle a 27 ans. Elle dirige Chump Factory, une start-up lancée en 2017 et incubée par Innovup. Alors elle fabrique des biscuits, les célèbres Achomo, auxquels elle a ajouté de la vanille. Habituellement, on peut les trouver plutôt au bord de la route en vrac, mais elle a eu l'idée de proposer des petits sachets à 100 francs CFA pour les écoliers ou les employés de bureau et des formats à 1000 francs CFA plutôt pour les célébrations. Jaël a fait des études en industrie agroalimentaire puis en business. Jeune, dynamique, inventive, elle est passée par tous les mécanismes financiers. Et aujourd'hui, 35 personnes travaillent au sein de Chump Factory et Jaël exporte également ses produits dans la sous-région et vers les diasporas. Il est presque midi dans le quartier Avedi. On est au milieu d'une quinzaine de femmes en tablier autour des grandes marmites, des épluchures de bananes plantains, dans des effluves de sucre et de friture.
Alors, bonjour Madame Raphaël, bienvenue à Chump Factory.
Merci, qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
On est en train de faire des toffees, c'est du caramel de lait concentré, mais là on l'a fait avec du gingembre, c'est la particularité, donc ça a un goût très épicé.
On s'installe quelque part?
Oui, bien sûr, allons-y.
Jaël, racontez-moi comment Chump Factory est né, comment vous avez lancé cette micro-entreprise.
J'ai commencé depuis les bons, à l'âge de 14 ans, à aider ma maman à produire des atomes. Sur le campus, j'ai repris cette activité de production et de commercialisation des amuse-bouches. J'arrivais à vendre au moins 30 000 francs par semaine pour payer les études et tout ce qu'il fallait pour pouvoir s'en sortir sur le campus de Lomé. Après ça, je me suis fait incuber à Innovop.
Qui est un incubateur de start-up féminines.
Avoir été incubée nous a vraiment donné la chance d'avoir les bonnes informations au bon moment. Parce qu'il y a eu des coachs qui sont déjà passés par ce que nous avons vécu. Donc, les partages d'expériences, ça nous permettait déjà même d'avoir un bon carnet d'adresses entre nous, de se soutenir, d'évoluer ensemble. Déjà en 2018, la demande était vraiment, vraiment forte. Donc, il fallait trouver du financement pour pouvoir agrandir la production et sortir de la cuisine. Là, j'ai encore pris contact avec une mésofinance du nom de Sogemef et j'ai commencé par faire une tontine de 3 000 par jour. Au bout de 3 mois, j'ai totalisé 270 000.
270 000 francs, ça fait à peu près 410 euros. Mais la mésofinance, c'est quoi? Et c'est quoi la différence avec les institutions de microfinance par lesquelles vous étiez passé avant?
Alors, une mésofinance, c'est une institution financière qui se situe entre la banque et la microfinance. Le montant de prêt aussi est plus élevé que la microfinance pour un début. Vous avez un taux d'intérêt qui se situe entre 12 et 15%. Et donc, quand vous faites la tontine sur 3 mois, vous avez la possibilité de prendre votre montant fois 4. Pour chaque crédit, en tout cas, il faut payer les frais d'études de dossier, qui varie entre 1 et 1,5% selon le soit micro ou mésofinance. Il faut payer les frais d'assurance. Et donc, après ça, vous devez avoir une caution morale.
Mais alors, si je comprends bien, pour accéder à un crédit en microfinance ou en mésofinance, il faut d'abord passer par le circuit de la tontine pour prouver qu'on est fiable, en fait.
Exactement. L'agent de tontine vient chez vous à la maison, il voit votre activité tous les jours et donc ils font plus confiance pour pouvoir octroyer les prêts.
Et est-ce que vous avez été touché par la pandémie de Covid-19? Est-ce que vous en avez senti directement les conséquences au niveau de votre entreprise et de votre chiffre d'affaires?
Covid a été pour nous un accélérateur de chiffre d'affaires. Avec la fermeture des frontières, il y a eu pas mal de biscuits qui n'arrivaient plus sur l'étendue du territoire. En 2019, on était à 9 millions de chiffre d'affaires. Tout 2020, on a fait 22 millions, ce qui voudrait dire que Covid nous a fait du bien. Et est-ce que je peux dire ça? Non. Vraiment, il y a eu des moments où c'était vraiment pas facile du tout, où il fallait se priver de tout, il fallait dormir dans sa boutique pendant au moins 6 mois pour pouvoir s'en sortir à la fin du mois. J'ai eu une grande capacité d'adaptation. Je courais dans tous les sens. On était juste 3 personnes, 2 dames à la production et moi qui étais la secrétaire, la chargée de com et la distributrice de mes produits. J'avais une petite moto et c'est sur ça que je me baladais. Donc, chaque jour que Dieu faisait, je cherchais plus de boutiques pour pouvoir rembourser le prêt.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes vraiment l'exemple qu'on peut entreprendre à partir d'une épargne de 500 francs par jour, 1 euro par jour, et finalement pouvoir réussir à faire grossir son entreprise qui crée de l'emploi et qui dégage des marges importantes?
On peut vraiment commencer très petit, mais avoir de grandes ambitions, une vision bien claire, et là on peut évoluer. Oser commencer, parce que c'est l'ambition et la détermination qui vous amènent loin. Mais assurez-vous que le projet que vous portez est une passion pour vous. L'amour et la passion que vous aurez pour ce projet vous fera surmonter les difficultés. Persévérez, persévérez et persévérez.
Femmes et micro-entreprises au Togo chez 7 milliards de voisins. C'était un reportage de Raphaël Constant, réalisé par Romain Dubrac, et bien sûr un reportage à réécouter en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. À lundi les voisins.